Bienvenue à toi dans les entretiens positifs. Je m'appelle Capucine et je suis chimiste. Dans la vie, je suis passionnée de molécules tout autant que de gens qui m'entourent. Ce podcast, c'est un petit peu de la chimie humaine. J'invite mes proches à venir échanger sur un sujet de leur choix et qui les fait triper. On y retrouve un petit peu de tout ce qui fait l'âme d'une discussion. La philo, de l'introspection, des confidences, de l'intimité. Par principe, on cherche moins à trouver des réponses qu'à se poser des questions. En fait, mon but, c'est plutôt de faire naître d'autres conversations enrichissantes avec les gens qui te sont chers. Donc, quoi que tu désires en retirer, je te souhaite une bonne écoute. J'ai croisé Anastasia pour la première fois à Côte-des-Neiges, dans la colloque de la rue Jean-Brion, alors qu'elle était encore étudiante en sciences infirmières. J'en ai gardé une forte impression. Tout ce qu'elle dégageait m'inspirait la bonté, l'ouverture sur les autres, la curiosité et l'envie d'apprendre. Nos rapprochements depuis la pandémie m'ont amené à découvrir une femme extrêmement solide et généreuse, toujours prête à bondir pour protéger celles et ceux qu'elle aime. Son travail aussi, elle l'aime. Et elle continue envers et contre tout, malgré les journées trop remplies, le manque de reconnaissance et le poids émotionnel qu'elle essaie de laisser sur son palier à chaque fin de shift. Dans ce quatrième épisode, nous allons parler de la vieillesse. Et peut-être aussi un petit peu de la mort, parce qu'après tout, c'est difficile de s'en sauver.
Ça choque encore beaucoup, même si c'est un phénomène qui est présent genre, depuis toute l'existence de l'humanité. Quoi.
Et qui est devenu de plus en plus tabou aussi. J'ai l'impression qu'on a sorti beaucoup les personnes âgées de notre environnement.
Au Canada et au Québec notamment, on estime qu'une famille, c'est maman, papa, les enfants. Là. Les personnes âgées, on s'attend qu'après un certain âge, qu'ils libèrent leur espace, qu'ils vont dans un CHSLD ou une résidence assistée. En tout cas, c'est ça que paraît dans les médias même encore, là, malgré la diversité qu'il peut y avoir. À l'époque, puis dans certaines cultures encore, c'est normal de rester avec ses parents, ses grands-parents, puis s'en occuper jusqu'à la fin de vie, parfois, là, à moins que les soins médicaux soient nécessaires. Personnellement, je trouve que les jeunes partent assez jeunes de chez eux. Il y a peut-être quand même une petite pression sociale. En tout cas, parmi mes amis, là, tout le monde, dans la vingtaine, 25 ans, là, tout le monde est parti, là, de leur gré ou pas.
Ben, c'est sûr qu'il y a la possibilité de partir, qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement avant pour des raisons financières. T'sais. C'est facile, je trouve, un peu parfois, de faire une relecture du passé en disant « Oh mon Dieu, on était tellement cool, on était tellement gentils, mais... » Il y avait aussi des contraintes matérielles.
C'est sûr. Mm. Avec l'urbanisation, il y a soudainement beaucoup de gens au début du 20e siècle qui sont arrivés dans les centres urbains. Mm-hmm. Et il n'y avait juste comme pas assez de logements pour tout le monde. C'était pas construit assez rapidement, alors tout le monde s'en passait. Puis pas nécessairement des familles entières, mais juste comme des travailleurs ensemble. C'était tout le temps des chambres à logement, chambres séparées.
Et puis tu devais te déplacer pour aller travailler. Oui. Fait que tu quittais chez tes parents tôt aussi parce que t'en avais besoin pour aller gagner ton pain. Ouais, c'est ça. Puis qu'il y avait une transition entre une vie plus agricole puis une vie plus urbaine. Qui n'était pas nécessairement adapté à cette intergénération. Oh mon Dieu, il est toujours à dire ce mot.
Ouais, intergénérationnalité. Exact. Ce que je remarque, c'est que les gens, pour des contraintes de climat, en hiver, le sol est gelé, le sol est glissant, elles ont peur de sortir de chez elles. Alors pendant minimum 6 mois, ils se font toutes commander chez eux, soit c'est le livreur de l'épicerie, soit c'est leur famille qui va leur apporter de quoi. Mm-hmm. Mais on les voit simplement pas, ils participent pas à la vie sociale.
Par ton travail, tu établis un contact avec une population disparue, mais présente, mais disparue.
Oui.
À quoi ça ressemble tes interactions humaines avec eux et est-ce que tu as l'impression que ces interactions humaines que tu as avec eux font partie du soin?
J'ai eu l'opportunité de travailler autant dans les hôpitaux que dans les centres de réadaptation, dans les CHSLD, j'ai fait de la clinique. Puis en ce moment, ce que j'ai choisi, c'est de travailler dans un CLSC. Et notamment, je travaille dans le département des soins à domicile. Donc, on dessert surtout une population qui n'a pas les capacités de sortir de chez eux pour se rendre à leur CLSC pour, par exemple, recevoir une injection de médicaments ou se faire changer les pansements. Ça me permet de rencontrer les gens dans l'intimité de chez eux, de voir comment est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur passé. Tu sais, souvent, t'as des photos sur les murs, t'as des petits souvenirs de voyage. Souvent, je refais un pansement, ils me jasent de leur vie, ils me parlent de leurs enfants, de leur vécu. C'est super enrichissant comme expérience. Quand tu vieillis, je trouve que les besoins chez les gens, soit consciemment, soit inconsciemment, deviennent différents. Tu commences à moins te soucier des choses à l'échelle globale, puis tu te préoccupes plus des choses à l'échelle immédiate. Est-ce que moi, j'ai accès à mon transport adapté? Est-ce que moi, j'ai assez de cannes de conserve pour manger pendant le mois à venir?
T'sais? Si tu as l'impression d'être dépendant d'un service externe pour pouvoir juste agir au quotidien, t'as pas l'espace pour te poser des questions à des échelles plus globales.
C'est certain, absolument. Donc on a la difficulté, là, le lien directement avec le système de santé actuel qui, on va se le dire, n'est pas nécessairement suffisant pour le demande de la population. Mm. On rush quand même. Là, j'ai souvent beaucoup trop de patients pendant une journée que je suis normalement capable de faire. Par exemple, j'ai quelqu'un qui vient de revenir tout de suite de l'hôpital, puis il faut faire des changements de pansement, puis il faut vérifier si la personne prend ses médicaments en injection, il faut regarder s'il le fait bien. Donc ça, ça décale toutes mes petites évaluations d'état général, comme on dit, qui comme t'arrives chez la personne, puis au fond, tu prends sa pression, tu regardes s'il mange bien, dort bien, as-tu de la douleur. Puis ça, ça prend un petit peu le bord par rapport aux besoins plus urgents, par exemple, quelqu'un qui en soins palliatifs ou quelqu'un qui vient de revenir soudainement de l'hôpital.
Il n'y a pas grand monde qui vit ça, là. C'est l'impression que le temps perdu à la job affecte directement la qualité de vie de quelqu'un.
Oui, t'sais? Absolument.
C'est une source de stress.
C'est une source de stress, puis c'est vraiment une question d'apprendre à se détacher du travail, puis vraiment mentalement, en tout cas, puis de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment une urgence mortelle? Est-ce que la personne va vraiment souffrir si je fais son changement de sonde urinaire, par exemple, demain, donc 12 heures plus tard que prévu, qu'aujourd'hui? Donc, on apprend les soins infirmiers, là, il y a comme tous des paragraphes qui expliquent qu'il faut ralentir ton temps de parole, il faut parler un peu plus fort, utiliser des mots plus simples. Pas toujours, c'est vraiment une méga généralisation.
C'est vrai, hein?
Et effectivement, une grosse partie de mon travail, même si c'est pas écrit explicitement, c'est de briser la solitude. Au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Ben, tes amis commencent à atteindre un certain âge, puis graduellement, ben, il y en a certains qui finissent par décéder, hein? Ton cercle social se restreint de plus en plus. Mm. Et même si au Québec, on a quand même des ressources qui existent, par exemple des numéros téléphoniques que tu peux appeler pour jaser avec un bénévole, c'est quand même pas la même chose que vraiment avoir le contact d'une personne qui, à côté de toi, qui peut te serrer la main, qui peut t'apporter un verre d'eau.
Oui, puis quelqu'un d'intime.
Quelqu'un d'intime aussi.
On en parle effectivement comme si la vieillesse, c'était une autre phase. Mm-hmm. Mais moi, je pense que dans 50 ans, j'aurais toujours envie d'avoir des personnes sur qui je peux compter à mes côtés. T'sais.
C'est ça.
Puis effectivement, ça ne va pas être le cas nécessairement, mais je peux bien comprendre comment une ligne téléphonique d'écoute, c'est pas la même chose qu'un ami proche, tu sais.
C'est ça, c'est pas toujours le même bénévole qui répond, tandis que là, juste après, par exemple, 2 ou 3 visites chez quelqu'un, là, que ce soit vraiment un soin de 15 minutes ou d'une heure. Pendant cet automne et cet hiver, je faisais de la vaccination. Mm-hmm. Alors légalement, quand tu vaccines quelqu'un pour éviter un risque d'allergie, t'es obligé de rester 15 minutes minimum avec la personne.
C'est vrai, on l'a tous écrit, je pense. C'est ça. Oui.
Mais il y a des gens qui... Quand je leur dis « je suis là pour 15 minutes », ils font comme « bon, on a 15 minutes, je vais raconter toutes les histoires salaces que j'ai vécues durant mes 87 ans de vie, puis tu vas savoir que même si je suis une vieille loque maintenant, ça c'est un verbatim, là, c'est une patiente qui s'appelait vieille loque, que moi j'ai fait des choses plus cool que toi. Ah. » Puis c'est vrai que c'est des belles histoires à rougir, là, puis c'est divertissant pour elle, c'est divertissant pour moi. Ça fait comme vraiment un recueil de récits humains que je traîne avec moi depuis ces quelques années que je travaille.
C'est magnifique. Surtout qu'en plus, c'est des histoires qui sont très peu entendues parce qu'effectivement, dans une situation d'isolement, t'as plus personne à qui raconter ça.
Ah, puis parfois, il y a des gens qui me font des confidences sur leur trauma qu'ils ont vécu. Il y a des gens qui m'ont parlé de l'abus sexuel qu'ils ont vécu par leur famille. Il y a des choses un peu plus lourdes qui arrivent. Puis tu sais, t'es là, tu viens de rencontrer la personne il y a 10 minutes. T'es encore en train de porter tes bottes de manteau. T'en vas dans 10 minutes, puis la personne te parle de genre des horreurs qu'elle a vécues. Puis ça prend vraiment un petit quelque chose à l'intérieur de soi pour accepter la situation, puis pour se dire « je vais écouter, je vais offrir du support, puis j'espère que ça la soulage ». C'est quand même des choses qui arrivent assez régulièrement, je te dirais.
Donc tu dirais que ça fait vraiment partie du soin que tu prodigues finalement?
Ah oui, absolument. Ouais. L'écoute, c'est vraiment la qualité numéro un qu'on travaille avec les humains. Pas nécessairement en soin, là, juste en général. Souvent les gens ont beaucoup de choses à exprimer, peu importe l'âge.
Quelque chose aussi qui a dû jouer, je pense, c'est le fait que l'espérance de vie s'est prolongée.
Oui, de beaucoup.
Ce qui fait que vivre avec tes parents puis t'en occuper jusqu'à leurs 90 ans, avec des maladies qui s'additionnent puis devoir prodiguer des soins que t'as peut-être pas l'espace pour les donner.
Ben déjà, ça commence par le fait que, notamment ici au Québec, je trouve, on n'est pas très intense sur l'éducation à la santé. On n'en parle pas tant à l'école. Si t'as un bobo, bon, t'espères que t'as un professionnel de santé qui va te voir puis t'expliquer plus ou moins qu'est-ce qui se passe.
Ouais.
Mais tu sais, on sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe à la vieillesse.
Non,
puis tu sais, les gens sont surpris. C'est pas représenté dans les médias, on en discute pas vraiment, on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec le corps, qu'est-ce qui se passe au niveau mental ou émotionnel aussi quand on atteint un certain âge. Quand ça arrive à ta mère ou à ton père, la personne que t'as toujours connue, puis c'est une personne super adéquate, super organisée, puis soudainement, ça a plus d'allure, elle arrête pas de perdre ses choses, elle te reconnaît plus, elle ne s'oriente plus dans l'appartement, elle sait pas où ce qu'elle est, elle reconnaît pas son lit, tu sais. Parfois la personne sort dehors puis s'égare, puis faut appeler la police. Il y a beaucoup d'intensité de part des familles pour qu'on prodigue des soins, puis qu'on essaie de faire revenir la personnalité de la personne comme elle était avant.
ça fait paniquer parce que tu dis, je suis la seule personne à qui ça arrive.
Exactement.
Parce qu'on les voit pas, les personnes âgées, les gens meurent pas autour de nous quand même du tout.
Non.
Comme vieillissent pas, meurent pas autour de nous. Là.
Dans les soins à domicile, il y a vraiment une infirmière qui est là depuis des années, qui s'occupe que des soins palliatifs partout dans le territoire.
C'est comme le rock, genre.
C'est
genre le bouclier à qui...
Oh mon Dieu! Oui, c'est une femme en acier. Ouais. Puis ça a donné que j'étais avec elle dans la même chambre. C'était une patiente qui était en train de décéder d'un cancer. Il lui restait vraiment quelques heures. Elle était inconsciente depuis des jours. On contrôlait sa douleur. On la gardait dans un niveau de conscience assez bas pour qu'elle souffre pas. Ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est la douceur avec laquelle ma collègue est venue donner les soins à la patiente. T'sais, on a lavé le visage, on a changé la couche culotte, on l'a habillée parce que la famille allait venir bientôt. Puis la dame l'a fait en chantant du Edith Piaf, genre, puis du Joe Dassin.
Ça devait tellement être un moment ultra touchant.
En espérant qu'elle entende, en espérant qu'elle soit soulagée. On essaie de ramener des bons souvenirs avec la bonne musique.
Et d'ailleurs, même quand tu ressens plus rien physiquement, même quand tu perds ta vue, etc., le dernier silence à partir, c'est Louis. Fait que c'est pour ça qu'on dit un peu, il faut pas dire du mal des gens sur leur lit de mort, mais c'est parce qu'il y a de bonnes choses pour qu'ils t'entendent.
Non, c'est sûr.
Cet accompagnement à la mort a été fait beaucoup par les familles pendant des années. Puis je pense que dans une société où le vieillissement puis la mort étaient plus présents, on était aussi plus adaptés à vivre ces transitions-là.
Tout de suite, dès qu'on a géré la situation puis la personne est soulagée en sécurité, on fait de l'enseignement. On montre comment donner les médicaments. Et souvent, dans les cas des diagnostics un peu chroniques qui prennent du temps, la famille devient une experte elle aussi. Là.
Ouais.
Ça m'est déjà arrivé de voir des enfants de personnes âgées qui sont tout aussi équipées pour donner des soins que moi.
Ça prend d'être dans le contexte, puis tu le fais renseigner sur le spot un peu, tu sais.
C'est
comme
ça.
Maintenant, il y a ton parent qui meurt, puis là, t'es comme démuni, tu sais pas quoi faire, puis là, tu peux apprendre.
Vieillesse, ça crée tellement un contraste entre ce que tu étais capable de faire avant, puis ce à quoi tu es restreint en ce moment. Puis tu sais, on a tous des génétiques différentes, on a des corps différents, il y a des gens qui ont des rides plus facilement que d'autres, il y en a d'autres qui vont voir leur masse musculaire, malgré les entraînements, diminuer avec l'âge. Puis c'est normal, ça fait partie de comment est-ce que le corps change.
Est-ce que c'est quelque chose dont tes patients te parlent de leur rapport à leur corps et de leur rapport à justement... l'incapacité grandissante?
Ça dépend de la capacité personnelle de premièrement le prévoir, puis ensuite de faire le deuil, puis de continuer sa vie tout en s'adaptant. J'avais une patiente à un moment donné qui avait une dentition un peu édentée. C'était vraiment sa décision consciente, puis je voulais vérifier est-ce qu'elle dit ça juste pour comme paraître forte, est-ce que c'est vraiment l'impression qu'elle veut donner, puis ça la dérange. Puis à un moment donné, j'ai vraiment eu une conversation avec elle dans sa chambre, on s'est assise, puis j'ai parlé, écoutez, est-ce que ça vous dérange vraiment? J'étais comme, mais non, c'est normal, j'ai accepté le fait que mon corps va vieillir, j'ai accepté le fait que je ne vais pas paraître de la même façon, puis je ne vais pas pouvoir faire les choses de la même façon que quand j'avais 50 ans. Puis souvent, les gens me parlent de leur passé. Il y a quelqu'un qui faisait de la voile, il y a quelqu'un qui faisait de l'équitation, il y a des gens qui ne couraient pas des marathons, mais qui étaient très, très actifs physiquement, puis qui s'occupaient d'une grande famille, par exemple. Puis là, en ce moment, ils sont rendus soit alités, soit en fauteuil roulant, soit ils ne sont pas capables de faire 10 pas sans s'épuiser. Puis ils m'en parlent. Ils m'en parlent de ces changements-là, puis ils disent « Moi, à l'époque, j'étais capable de telle, telle, telle chose, et maintenant, je ne suis pas capable, mais j'ai ces souvenirs-là. » Ma croyance personnelle, c'est que les deuils, ça se résout jamais. On arrive à les accepter, mais le deuil, en tant que tel, il est encore là de la chose ou de la personne ou du souvenir qu'on a perdu. Moi, par exemple, je sais que ça va être très, très difficile pour moi quand je vais avoir les cheveux blancs. Ça va être extrêmement difficile, puis je suis certaine que je vais être une vieille madame qui va se teindre les cheveux genre en couleur bright, dans le déni du fait que j'ai des cheveux blancs.
T'sais. Ou dans l'acceptation totale.
On verra en temps et lieu.
Mais tu peux ne pas avoir envie d'avoir les cheveux blancs, accepter que ça va arriver, et trouver d'autres stratégies pour quand même avoir du plaisir
là-dedans.
Est-ce que t'as peur de vieillir?
Oui. Ben, c'est pas que j'ai peur de vivre, mais en même temps, c'est inévitable. Donc, moi, j'ai plus une approche de « on verra quand on sera là ». Par contre, je fais tout ce qui est de mon possible pour me préserver. T'sais, autant d'heures de sommeil que nécessaire, de bien manger, d'être physiquement active pour éviter les complications qui viennent de choses les plus stupides au monde. Là. Par exemple, le diabète au Canada. C'est quand même relativement facile de l'éviter. Mais par contre, c'est tellement une maladie dévastatrice sur tous les plans. Là. On n'en parle pas, là, mais le diabète, ça massacre genre tes pieds, ça massacre ton système nerveux, ça massacre ton cœur à la longue. T'sais. Que moi, ma résolution, c'est de rester en santé puis de jamais avoir de diabète. Je vais contrôler ce que je mange, je vais contrôler mon niveau d'activité physique, je vais me garder en forme, mais je vais éviter ces complications-là à tout le monde.
Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est abstrait. On a un peu parfois aucune idée quoi faire, tellement la vieillesse, c'est tabou. Fait qu'on sait qu'il y a des choses qu'on fait qui probablement... aurait des mauvaises conséquences, mais on ne sait pas lesquelles. Puis effectivement, il ne faut pas virer fou dans l'autre sens, il ne faut pas comme devenir ultra stressé à l'idée de faire tout parfaitement. Mais je pense que dans le manque total de connaissances sur qu'est-ce qui va nous faire dégénérer, ça paraît logique d'avoir peur de qu'est-ce qui peut s'en venir, parce que tu es comme, est-ce que je vais regretter mes décisions dans comme 30 ans?
C'est littéralement la peur du futur. J'ai une petite histoire à raconter d'un de mes patients préférés. C'était un monsieur dans un CHSLD qui avait, quel âge? Genre 82 ans, je pense. Puis ça, c'était un monsieur qui était un vieux hippie, mais genre le stéréotype du vieux hippie qui consomme tout ce qui est consommable. Pendant des années, il habitait dans genre comme les forêts de Bessé dans une communauté, il pêchait du saumon, il le vendait au village le plus proche, il servait de cet argent-là pour s'acheter genre du crack, en tout cas, c'était particulier son affaire. Yo, le monsieur, il a 82 ans, il est encore en vie. Oui, il est magané, oui, il est amputé d'un pied, puis il a une colostomie, puis genre comme sur de l'oxygène en permanence à genre 5 litres minute. Écoute, c'était quand même une personne qui avait à chaque fois des histoires fascinantes à raconter, mais tu sais, sa qualité de vie en tant que telle, il est pas mécontent, là. Malgré les décisions que, comme, honnêtement, me semblent un peu douteuses, là. Je veux dire, déjà, consommer du crack, là, parmi toutes les choses qu'il a faites, là.
Tu sais, il y a des choses que tu fais, tu sais consciemment que ça va te maganer. C'est genre, ça. Les gens qui prennent de la cocaïne, je pense qu'ils le savent, là. Mais parfois, il y a d'autres choses que j'ai l'impression qu'on est comme pas trop sûr. On veut pas se ramasser à, genre, 60 ans, être comme, genre, j'ai rien fait assez à 100% pour avoir commit avec mes décisions.
Ouais.
Mais de l'autre, je me suis quand même suffisamment maganée pour que ce soit nul, tu sais.
C'est ça ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est une question de modération, puis de responsabilité personnelle, puis c'est tellement des décisions qui sont énergivores au niveau mental, que tu sais, parfois, effectivement, c'est plus facile de lâcher prise, puis oui, aller se prendre un petit Big Mac à quelque part, là. Mais en même temps, tu sais, on n'y pense pas de, OK, ça, cette décision-là ponctuelle, elle va-tu avoir un impact sur ma vieillesse? C'est vrai que si on y pensait à chaque fois, écoute, la vie serait vraiment plate. Alors, il y a vraiment une nécessité de lâcher prise, puis de vivre sa vie, puis ensuite, ben, d'assumer les conséquences d'un risque raisonnable. De quoi est-ce qu'on va avoir l'air d'ici 50 ans?
Je suis totalement d'accord avec toi.
Une transition qui est quand même assez importante, je trouve, c'est vraiment le passage de comme si t'es un travailleur, t'as une petite vie, t'as une petite famille, au fait que that's it, t'es retraité.
Oui, puis c'est brutal. On valorise quand même beaucoup le travail salarié dans notre société aujourd'hui.
Ah oui.
Et donc, le fait d'enlever aux gens ce travail-là, ça enlève quand même une grosse partie de
l'identité.
On n'est pas que des travailleurs, comme beaucoup d'autres affaires. Puis on a le droit de voir du travail qui n'est pas du travail rémunéré.
C'est sûr. Ça prend beaucoup de préparation. Il y a des gens qui sont prêts à le faire, puis qui savent déjà quel genre de bénévolat qu'ils vont faire. Puis même s'ils passent tout le temps avec la famille, ils savent exactement quel projet ils vont faire, quel hobby est-ce qu'ils vont avoir. Puis il y a d'autres personnes qui ça prend vraiment par surprise. Puis ça, c'est une responsabilité individuelle que personnellement, je trouve les gens doivent se poser.
Comment est-ce que à plus large échelle, nos structures de société et nos structures urbaines et notre ville pourrait adapter davantage le fait que les personnes âgées existent et désirent toujours faire des choses, mais qu'elles ont des besoins très différents.
Écoute, les rampes pour personnes à mobilité réduite, je trouve que c'est essentiel. C'est choquant personnellement à quel point les endroits sont peu adaptés à ce besoin-là. Les ascenseurs, bon, je sais que la STM en ce moment est en train d'adapter toutes ses stations avec des ascenseurs. C'est vraiment génial comme projet à ce niveau-là, je trouve. Des choses aussi simples que, par exemple, un éclairage adéquat le soir. Là. Il y a des gens qui ne sortent pas le soir, premièrement, parce qu'ils ne voient pas où ils s'en vont, puis des bancs, par exemple, pour se reposer quand les gens sont essoufflés après, par exemple, 10 mètres.
J'ai beaucoup entendu tes discours qui sont compréhensibles de familles qui placent leurs parents dans des centres, pas parce qu'ils veulent s'en débarrasser, juste parce que leurs parents habitent tout seuls puis qu'ils sont inquiets, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont faire la mauvaise chute? Est-ce que, genre, ils vont essayer désespérément de vouloir faire quelque chose tout seul parce qu'ils sont rendus entêtés et que ça va, comme, genre, les blesser?
Les accompagnants, c'est une job qui se fait. Souvent, c'est des gens qui viennent récemment d'arriver au Canada ou au Québec, qui ont peut-être des contraintes au niveau de la reconnaissance de diplôme, au niveau de la reconnaissance de leur niveau de français aussi. Puis la jobine qu'ils trouvent, ben, s'occuper de monsieur, madame d'un certain âge qui sont chez eux, puis ont parfois de la difficulté à ouvrir leur pot de beurre de peanut, puis ont peur de glisser dans la bain, puis ils ont de la difficulté à se mettre du Voltaren sur les genoux, tu sais. Puis la personne est là d'une certaine heure à une certaine heure, lundi à vendredi par exemple, puis ensuite c'est la famille qui prend le relais. Souvent, à quoi est-ce qu'on est confronté, c'est l'épuisement des aidants. Souvent, encore une fois, ça reste les femmes qui sont des proches aidants. Il y a un système qui existe au CLSC qui s'appelle emploi chèque service, puis au fond, c'est une job. T'es payé de donner les médicaments à une heure précise à ton membre de famille ou à faire un tel soin pour éviter que la personne du CLSC se déplace, puis le CLSC te paie de le faire. C'est très bien, ça soulage
les gens. Ça valorise déjà un petit peu ce travail-là.
Ok. Ouais. Oui, donc c'est très important.
C'est pas encore pour s'occuper des enfants, mais
pas encore.
J'avais entendu une statistique que c'était, ok, à revérifier, mais que c'était une personne sur quatre qui était proche d'un.
Oui.
Pas enregistré, mais en tout cas de façon générale.
Absolument. Ouais. Puis, parce que proche aidant, c'est vraiment un terme très vague qui englobe parfois, tu sais, parfois tu viens aider à faire les courses pour une mamie de 70 ans, là, déjà tu es un proche aidant. Mm. Déjà tu viens lui aider à lire ses documents, par exemple, pour les taxes parce qu'elle a des difficultés de vue, ben déjà tu es un proche aidant. Mm. Techniquement, moi j'ai été une proche aidante pendant genre, plusieurs années de ma vie. Dont il est tellement fréquent qu'on en parle carrément en cours, c'est la peur d'être un poids, puis d'imposer notre souffrance aux autres. Il y a quand même une société qui a été relativement chrétienne, catholique pendant un certain temps. La souffrance, c'est une valeur qui nous permet de nous approcher du paradis. Le soulagement de la douleur chez les aînés, là, c'est vraiment c'est un sujet à part, c'est compliqué. Là, c'est de convaincre quelqu'un de prendre sa morphine après l'opération, là, parce que la personne a la douleur 10 sur 10, là, puis elle n'est pas capable de bouger quoi que ce soit. Et déjà, encore une fois, le manque d'éducation, que le soulagement de la douleur, c'est nécessaire, puis non, la morphine va pas te rendre addict, puis non, tu vas pas arrêter de respirer durant ton sommeil parce que t'as pris un milligramme de morphine, tu sais.
Je trouve que c'est très présent dans la culture québécoise de pas vouloir être un poids pour les autres.
Ouais.
Et je me demande si ça, justement, c'est quelque chose qui se perpétue encore aujourd'hui dans notre peur de vieillir, au-delà de la peur de voir le corps se dégrader. Mes grands-parents, en tout cas, genre, sans rentrer dans les détails, mais... ils ont eu, à un moment donné, vécu de l'abus financier, tu sais. Mm-hmm. Puis clairement, quand t'es quelqu'un qui a eu tendance dans la vie de façon générale à être sujet à des abus, je me dis, la vieillesse, c'est super vulnérabilisant.
Extrêmement, extrêmement vulnérabilisant. Puis c'est vraiment quelque chose dont on parle de plus en plus, peut-être pas dans la société, mais au niveau des soins, oui, on en parle. Mm. Notamment, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait pour pouvoir détecter ces risques d'abus-là, que ce soit de l'abus physique, que ce soit de l'abus sexuel aussi. Hein. L'abus sexuel chez les aînés, ça arrive. On n'en parle pas du tout. C'est un sujet extrêmement tabou.
Oh my God, oui, hein.
Parfois, c'est la personne qui ne veut pas le déclarer elle-même. Là, encore une fois, le désir de ne pas être un poids, ben, c'est pas super. J'ai vécu une chose pire que ça. Alors, c'est pas grave que j'ai peut-être 20$ par jour pour genre, comme, me nourrir ou quoi que ce soit. Là, comme d'habitude. Puis, il y a des choses vraiment assez intenses qui peuvent se passer, notamment dans certains diagnostics, par exemple, tout ce qui est troubles neurocognitifs, Alzheimer, par exemple, qui est un très gros sujet aussi.
Ouais.
Puis, toutes sortes de démences, ben, graduellement, les gens ne sont plus eux-mêmes ou ils sont juste une fraction de leur identité.
Ouais.
Puis, par exemple, dans les CHSLD, t'as le CHSLD avec les unités habituelles pour tout le monde. Puis, parfois, t'as une unité spécifique, donc une unité prothétique spécifique, qui est magnétisée, donc les portes sont barrées pour que les gens ne puissent pas, en faisant de l'errance, soudainement s'enfuir.
Oui, ça arrive.
Ça, oh mon Dieu, ça arrive souvent.
Il y a des gens qui meurent comme ça.
Ah oui, oui, ça c'est assez commun, là, surtout durant l'effroi québécois, oui, il y a beaucoup de cas. C'est rendu là, on utilise des techniques de divertissement, tu sais, on joue à balle avec, on leur apporte des choses douces, molles, beaucoup de jouets en peluche pour qu'ils soient quand même stimulés, tu sais. Puis normalement, une chose assez particulière, que peu importe le niveau de démence, on garde quand même une petite parcelle de lien avec notre vécu. Il y a, dans certains CHSLD assez bien nantis, il y a quelque chose qui s'appelle comme une salle de stimulation, une salle snowzelaine. Alors au fond, c'est une salle où les lumières sont un petit peu baissées, t'as du bon éclairage doux, t'as parfois de la petite musique douce qui joue, et sur les étagères, parce que tu as plusieurs étagères au mur, tu as toutes sortes d'objets qui vont évoquer le souvenir, et tout ce qu'on fait quand on amène la personne là, on la laisse entrer, puis la personne spontanément va aller vers quelque chose qui lui rappelle son passé ou qui la stimule. Les gens qui aiment la stimulation tactile vont jouer avec les balles en caoutchouc, par exemple.
C'est tellement dur de s'imaginer cette personne-là.
Non, c'est correct.
Mais il faut s'imaginer. Est-ce que tu t'imagines vieille?
Oui. J'imagine bien, puis j'espère juste que je vais avoir un bon réseau social. J'aimerais beaucoup garder mes amitiés, j'aimerais garder ma curiosité envers le monde. Alors même si, par exemple, je vais être paralysée ou à moitié aveugle ou peu importe, ben j'aimerais quand même écouter des documentaires, puis comme découvrir le monde autour de moi. J'aimerais pouvoir sortir dehors. Puis une chose que je remarque, c'est que les personnes qui se rendent à un âge plus avancé puis qui se gardent le mieux cognitivement en forme, c'est des gens qui suivent des habitudes assez strictes. J'avais une patiente qui avait 96 ans, je pense, à l'époque, là. C'était une infirmière canadienne qui a travaillé sur un navire hospitalier. Donc, c'était comme un hôpital mouvant durant la Deuxième Guerre mondiale pour qu'ils se détectent pas et qu'ils se fassent pas bomber par les Allemands.
Oh t'sais. My God, elle devait avoir des histoires à raconter, elle, par exemple.
Ben, l'affaire, c'est qu'elle faisait du ALS, donc un syndrome qui te paralyse.
Okay.
Donc, graduellement. Puis, elle était rendue pas mal à l'étape finale où elle était plus ou moins encore capable de bouger ses mains puis de respirer, mais pas grand-chose d'autre. Et elle, chaque matin, elle avait une routine. On allait dans sa chambre, on ouvrait les rideaux. On l'installait, on lui donnait une petite débarbouillette, elle lavait son visage du mieux qu'elle pouvait, on finissait la job pour elle. on l'habillait, puis ensuite on la sortait dans son fauteuil roulant dans le couloir de la résidence. Puis devant elle, on plaçait son petit miroir, son rouge à lèvres et son mascara. Et ça lui prenait, je te jure, 1 heure et demie à appliquer son mascara, son petit fard, son rouge à lèvres. Puis comme ça, elle était belle pendant la journée, elle était belle au dîner. Puis à l'heure de souper, on l'a réinstallée et dans son lit, avec une petite débarbouillette, elle a enlevé son rouge à lèvres, son fard, tout cela. Et ensuite, elle se couchait chaque jour, chaque matin, chaque soir, sans exception.
Je trouve que grâce à ton métier, puis grâce à ta sensibilité, puis à la personne que tu es, ça te réhumanise la vieillesse, en fait.
Absolument.
Et je trouve que ça, c'est le plus beau, et c'est ce que nous autres personnes qui ne travaillons pas en santé, on ne voit plus l'humanité derrière cette déshumanisation globale d'un corps vieillissant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, que ce soit ton corps, ta job, ta famille, des gens qui vont mourir autour de toi. Il va se passer bien des affaires, mais tu peux garder clairement une humanité si on t'en donne les moyens. Et juste qui vont te permettre de faire cette petite transition-là pour que tu te sens peut-être moins comme un poids parce qu'on t'a donné suffisamment d'espace d'exister et puis d'être humain.
À un moment donné, je travaillais dans un CHSLD où une activité récurrente pendant l'été, c'était de prendre les quelques résidents du CHSLD qui étaient encore très très alertes, très très bien avec leurs mains, qui avaient une bonne motricité, puis de leur faire éplucher des fruits. Puis ça leur permettait encore de sentir comme un individu. Mais oui, tout à fait. Puis je ensuite, ces fruits-là, ils allaient dans le repas de tout le monde.
C'est aliénant pour tout le monde d'avoir l'impression de ne plus servir à rien. Ouais, puis qu'on te laisse même plus essayer, tu sais.
Ouais.
Je vois comment dans la famille ça peut arriver, tu sais, de vouloir surprotéger tes parents parce que t'as peur qu'ils se fassent mal, puis au final, tu... Je sais pas, moi j'aurais pas envie de me faire materner par mes enfants, tu sais.
C'est sûr. Personne ne veut.
Ouais, mais
les
ça,
gens font mieux pour le cacher leur incapacité, là. Souvent, quand on voit les personnes âgées devenir un peu plus de mauvais caractère, un peu plus grincheuses, puis de minimiser leur père, ben souvent c'est ça. Ouais. La personne ne veut pas admettre qu'elle ne sait plus où est-ce qu'elle a placé ses clés. Elle ne sait pas où ce que sont ces choses. Elle va oublier où est accrochée telle robe et c'est quoi son armoire.
Ouais.
C'est vraiment un dur équilibre à garder, là. Puis c'est tellement de facteurs qui rentrent là-dedans. Je te dirais, c'est surtout ça le gros dilemme de la vieillesse, qu'on vit entouré d'autres personnes. Il y a une super belle initiative qui a commencé en Europe. En ce moment, ça commence à apparaître tranquillement dans la région de Montréal. C'est des résidences intergénérationnelles. Mm-hmm. Alors, c'est des blocs locatifs où tu as, par exemple, une personne aînée qui va cohabiter avec un étudiant. Parce que les deux ont besoin d'être logés quelque part. Puis, par exemple, la personne aînée, ben, elle va expliquer des choses, puis partager son vécu avec le petit jeune. Puis le petit jeune, par exemple, va lui aider à apprendre comment utiliser le courriel ou aller faire les courses pour la personne. Puis ça crée une espèce de collaboration, puis de communauté, parce qu'on arrive vraiment à démystifier les réalités de l'un et de l'autre. Hein, parce que parfois, les aînés ne sont pas au courant de ce qui se passe avec les générations actuelles, puis c'est quoi notre réalité, et vice-versa.
Je vois vraiment beaucoup, quand même, la sagesse qui est associée avec le fait de vieillir. Puis je trouve que particulièrement chez les femmes, comme on nous valorise énormément pour nos corps, il y a un peu un côté, dès que ton corps va commencer à dégénérer, tu ne vas plus avoir de valeur. Et je trouve ça très dommage parce que, personnellement, j'espère que je vais devenir une vieille femme érudite. Genre. En tout cas, je vois la valeur associée au fait de prendre de l'expérience puis être capable d'avoir cette sagesse-là.
Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait plus sensibiliser les gens dans la société au fait que vieillir, c'est vraiment, ça fait partie de la vie?
Mettre en valeur ce que les personnes âgées peuvent apporter plutôt que mettre le focus sur ce qu'elles sont plus capables de faire.
Exactement, ça serait bien.
Merci Anna pour ton précieux témoignage. Je me sens chanceuse que tu aies pris le temps de nous partager un peu ton quotidien et les nombreuses histoires que tu as pu collecter après des années et des années de pratique. Ça reste qu'à travers les crises économiques et écologiques qui s'en viennent, moi je trouve que c'est un peu difficile parfois de s'imaginer vieillir. Puis surtout dans quel contexte on va vieillir, ça facilite pas la projection. Ça empêche parfois un peu de connecter avec ce stade de la vie parce qu'on manque vraiment de modèles et de certitudes. Pourtant, le seul remède contre la vieillesse, quelque part, c'est la mort. Et les chandelles qu'on souffle à chaque année sont autant de preuves qu'on en a survécu une de plus. Ça, c'est des mots que j'entends souvent de la part de personnes qui ont grandi dans des pays troublés, avec des instabilités politiques, de la guerre, beaucoup d'inégalités et de la pauvreté. J'espère que vous sortirez de cet épisode avec un désir positif de reconnecter avec ces pensées-là, puis d'apprendre à accueillir cet état inévitable, avec la certitude que la vie aura été bien vécue d'ici là. Je vous envoie plein d'amour. N'oubliez pas que vous êtes des belles personnes entourées de belles personnes. Et je vous dis à très bientôt.